Bonsoir mes frères et sœurs. Est-ce que vous vous rappelez la dernière phrase du premier cantique? Les trois dernières phrases. À moi, je ne sais pas si vous l'avez chanté ou si vous espérez le vivre. En tous les cas, c'est biblique, c'est la volonté de Dieu. À moi, plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai vécu il y avait 14 ans que j'étais pasteur. J'étais pasteur depuis 14 ans, j'avais une grande assemblée en Polynésie. Et j'étais dans un moment où j'ai confondu certaines choses. Vous savez, dans la Bible, il est dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et j'ai confondu ce verset avec une pensée « Heureux ceux qui s'apitoient ». Est-ce qu'il est écrit dans la Bible « Heureux ceux qui s'apitoient » ? Non. Vous comprenez la différence ? On peut pleurer parce qu'on a besoin de pleurer. Est-ce qu'il y a un temps pour pleurer ? Oui, c'est tout à fait normal. Ne dites jamais à un enfant, tu sois un homme, ne pleure pas. Ça, c'est vraiment pas intelligent. Parce que tous les hommes ont pleuré. Est-ce que Jésus a pleuré? Est-ce que Moïse a pleuré? Est-ce que Joseph a pleuré? Est-ce que Jérémie? Oui, bon. Et ça faisait 14 ans que j'étais pasteur. Je dirigeais une assemblée, ça se passait assez bien. Et j'étais dans ces phases, dans cette phase où à la place de pleurer un bon coup devant le Seigneur, et en disant, voilà Seigneur, tu vois, je dépose ça, je n'étais pas consolé. Et je croyais que je pleurais devant Dieu et je m'apitoyais, je me plaignais. Et je ne comprenais pas. Et un jour, dans la prière, Dieu m'a fait grâce. J'étais en train de rappeler au Seigneur, d'une manière très, très respectueuse bien sûr, un verset de l'Écriture que je croyais connaître par cœur. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais tous vous n'étiez pas là. Et je rappelais au Seigneur ce texte de l'Écriture. Seigneur, tu as dit que ceux qui prient, eh bien, ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. C'est écrit? Ceux qui prient prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent. Non, c'est pas ça qui est écrit. Et j'ai été repris dans la prière et le Saint-Esprit m'a repris, mais il n'est pas écrit « ceux qui prient ». Alors, on va lire ce qui est écrit. Ésaïe 40. « Toute mon exhortation est basée sur cette simplicité. Est-ce que je prie ou est-ce que je me confie en Dieu ?» Ésaïe 40, verset 27. Souvent, Ésaïe pose... Enfin, ce n'est pas Ésaïe, c'est Dieu qui pose ces questions. C'est impressionnant, le nombre de fois où nous voyons Dieu poser cette question, il pourrait nous la poser ce soir, il nous la pose, et c'est clair. Ésaïe 40, mais on va lire la question, verset 21. Ce sont des questions qui ne sont pas faites pour nous déranger. Ce sont des questions qui nous faites pour nous arrêter. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Oui, des questions comme ça, il y en a plein. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le vrai problème, il est là. Entendu, oui, mais apprendre, c'est autre chose. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui prient, c'est ça qui est écrit? Non, il n'est pas écrit ceux qui prient. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Vous avez vu ce texte? On ne peut pas sonder son intelligence. Vous savez, je vous donne un exemple parce qu'il en est parlé là. Il y a 100 ans, quand vous regardez les livres d'astronomie, je le dis parce que c'est quand même une bénédiction. Il y a 100 ans, on disait qu'il n'y avait qu'une galaxie qui existait, la nôtre, la Voie lactée, qui contient 400 milliards d'étoiles. Les années ont passé et on s'est rendu compte qu'il existait au moins 100 milliards de galaxies. il y a quelques années en arrière, on a pensé qu'il y avait, ils ont vu avec les télescopes Hubble en particulier, qu'il y avait 200 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient 200 à 400 milliards d'étoiles chacune. Et là, ils se sont rendus compte avec les nouveaux télescopes qu'il y a 7000 milliards de galaxies. Ça commence à faire des étoiles. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Moi, je pense que Dieu est grand. Très, très grand. Et c'est écrit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Dieu veut que nous sachions ces choses. Pourquoi? Pour nous montrer qu'il est grand. Et que nous, les chrétiens, nous devons pouvoir vraiment vivre ces choses. Et quand, ça faisait 14 ans que j'étais pasteur, vous voyez, quelle honte. J'avais 14 ans de ministère, je n'avais même pas appris la différence entre prier et se confier. Et vous ne verrez jamais dans la Bible écrit « Heureux l'homme qui prie ». Par contre, on peut le lire, vous voyez, dans le psaume 2, c'est important, mes frères et sœurs, parce qu'il faut qu'on puisse vivre ce qu'on chante. Des fois, on ne le vit pas, mais ça nous encourage quand même. Ça vous est jamais arrivé de chanter un cantique que vous ne viviez pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous culpabilise ou ça vous encourage? Mais non, ça vous encourage. Tiens, je vais le vivre. Il ne faut pas vivre dans la culpabilité morbide. Donc, dans le psaume, par exemple, c'est important, mes frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens rendent de mauvais témoignages. Vous le savez. Vous en avez souffert. Beaucoup de gens ne sont plus dans les églises parce que des chrétiens ont été une pierre d'achoppement. Ils ont scandalisé des petits, comme on appelle, des frères. Oui ou non? C'est impressionnant. Moi, je me souviens quand on s'est converti avec ma fiancée, on avait amené une trentaine de personnes qui travaillaient avec moi. Les 30 nous ont tous dit, vous êtes dans une secte. Et le problème, c'est que c'était vrai. Parce que les chrétiens étaient sectaires. Ça nous a brisé le cœur. On s'en rendait compte, mais en même temps, on voulait faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand on amenait quelqu'un qui n'était même pas converti, on lui demandait de se comporter comme un chrétien. Et on leur disait, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Laissez-les venir, les gens. Et je crois que beaucoup de chrétiens ont mélangé les choses. Nous devons vivre dans le repos. Venez à moi et je vous donnerai du repos. S'il y a bien un endroit où nous devons être dans la grâce, la miséricorde et la paix et le repos, c'est dans l'Église. Et Dieu dit, psaume 2, verset 12, la fin du verset 12, dans un contexte où le monde est malmené, c'est tout un texte vraiment. Il termine ce psaume en disant, heureux tous ceux qui se confient en lui. Et mes frères et sœurs, sachez une chose, que ce que Dieu veut, c'est que vous vous confiez en lui. Hier après-midi, j'étais en train de prier, je préparais cette réunion. Et le verset de base, en vérité, qui s'est imposé à mon cœur, c'est dans Jérémie au chapitre 17, au verset 5, on va le lire. Parce que c'est vraiment le texte qui s'est imposé à mon cœur lorsque j'ai prié pour cette réunion. Ce texte qui nous parle de malédiction et de bénédiction. Et bien sûr, c'est à nous de choisir. Jérémie 17, verset 5. Ce sont des choses d'une simplicité enfantine. Dans la Bible, il y a des choses qui sont très simples. Il y a des choses compliquées, c'est vrai. Et nous devrions pouvoir comprendre les choses compliquées, mais au moins comprenons les choses simples. Jérémie 17, verset 5. C'est Dieu qui parle. Et voilà ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel. Alors on sait très bien que toute la Bible est inspirée. Mais vous avez remarqué souvent que cette allocution revient. Cette allocution revient souvent pour qu'on n'oublie pas que c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. La description est terrible. Un homme qui se confie dans l'homme. Il est maudit. Qu'est-ce que ça veut dire, maudit? Mais qui se fait du mal. Il se fait du mal. Verset 7. Béni soit l'homme qui prie. comment vous avez dans votre Bible? Est-ce que vous comprenez la différence? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel seul est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Imaginez, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, par exemple, les platanes au bord du canal du Midi, la taille qu'ils ont. Et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Mes frères et sœurs, nous choisissons. Nous choisissons le style de personne que nous voulons être. Merci. Voulons-nous être maudits? Mais oui, maudits, c'est-à-dire le mal. La malédiction, c'est le mal. La bénédiction, c'est le bien. Beaucoup de chrétiens prient. Beaucoup de chrétiens s'appliquent à prier. Et c'est bien, et il faut prier. Il faut le faire parce qu'il y a un combat spirituel. Mais à quoi ça sert de prier si on n'a pas confiance à Dieu? Mais le fait de prier va nous amener certainement. Moi, c'est dans un moment de prière où j'ai vraiment compris, au bout de 14 ans de ministère, que je priais, et ça, je priais. Mais à un moment donné, je n'ai pas fait confiance à Dieu. Parce que j'avais des problèmes, et je pensais que plus je priais, plus Dieu me bénirait. J'étais dans la situation des hypocrites du Nouveau Testament. Est-ce que Jésus a taxé les pharisiens d'hypocrites? Ils priaient longtemps. Oui, ils priaient longtemps. Est-ce que c'est bien de prier longtemps? Ben oui, il faut pas. Mais le problème, ce n'est pas de prier courtement ou de prier longtemps. Le problème, c'est de prier le temps qu'on a besoin de prier. Et chacun doit prier le temps qu'il doit prier. Si quelqu'un me prie longtemps, eh bien c'est peut-être quelque chose que Dieu lui demande. Il y a des gens, ils prient courtement, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être vrai. Et que l'on prie ou que l'on ne prie pas, il faut faire confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu quand je prie, mais je fais confiance à Dieu quand j'arrête de prier pour vaquer à mes occupations. Et beaucoup de gens ont confondu ces choses. Et la parole de Dieu, elle est catégorique. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas répandre son cœur à quelqu'un et parler. On a besoin des fois de parler. Est-ce que c'est important de parler? Bien sûr. Est-ce que c'est écrit les uns les autres? Combien de fois c'est écrit? Aimez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire, mais je te porte, tu passes un moment difficile, je t'accable pas, je te porte. Mes frères et sœurs, nous avons ce devoir d'être des témoins. Jésus a dit, vous serez mes convertisseurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous serez mes témoins ou des convertisseurs? Vous serez mes témoins. Il n'a pas dit qu'on était des convertisseurs. Béni soit Dieu lorsque notre vie sert à la conversion de quelqu'un. Mais on ne convertit personne. Ce sont les gens qui décident pas de se convertir. Et nous, souvent, on veut convertir les gens. On ne peut pas convertir les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et c'est la personne qui, une fois convaincue de péché, choisit ou pas de se repentir. C'est pas parce que quelqu'un est convaincu de péché qu'il va forcément se repentir. Mais nous devons donner ce témoignage que lorsqu'on chante tous ensemble « Je vis dans la grâce de Dieu », ça soit une réalité. Est-ce que vous réalisez le témoignage lorsque quelqu'un qui vit dans la grâce, par déduction, va communiquer la grâce? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. C'est comment la suite? Quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quelqu'un qui vit dans la grâce de Dieu, c'est comme quelqu'un qui vit dans la paix, heureux ceux qui procurent la paix. Et je crois que notre devoir de chrétien, c'est de pouvoir dire, lorsqu'on chante un chant, comme celui qu'on vient de chanter, qui parle de la joie du salut, mais moi je sais que j'ai eu chanté ce cœur il y a longtemps, et je me disais en le chantant, je ne le vis plus. Je ne le vis plus. C'est terrible quand on ne vit plus certaines choses parce que notre communion avec Dieu s'est altérée, parce que notre communion avec Dieu a pris du relâchement, nous nous sommes fait piéger et nous n'avons pas veillé attentivement sur notre âme, sur ces choses. Moi, je vous assure, ça a été un électrochoc. Lorsque le Saint-Esprit m'a montré que je priais, mais je priais, je me levais tous les jours à 5h moins le quart, même si je me couchais à 2h du matin. Je peux vous dire que j'ai jamais autant prié de ma vie. Je me levais tous les jours, je peux vous dire tous les jours, à 5h moins le quart. Et je priais tous les jours, 1h, 2h le matin, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout le temps. J'ai jamais manqué un jour. Et au bout de 2 ans, vous voyez, le Seigneur m'a montré que ça ne servait à rien. Je priais, bien sûr, les gens pouvaient dire, notre pasteur, c'est un homme de prière. Oui. Et j'étais sincère, en tous les cas, Dieu m'a montré, une fois, une bonne fois pour toutes, que prier c'est bien, mais ils sont heureux les gens qui se confient en Dieu. Et je veux être une bénédiction. L'évangile, ça veut dire quoi l'évangile en fait? C'est quoi la définition du mot évangile? La bonne nouvelle. Je suis avenu, a dit Jésus, annoncer une bonne nouvelle. Ce soir, ce qui doit nous caractériser, c'est de savoir que l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui va nous aider à pouvoir retrouver ou trouver mieux ou rattraper du temps perdu et dire oui, je veux lire ma Bible parce qu'il faut que je lise ma Bible. Et quelqu'un qui ne plonge pas ses regards dans la loi parfaite ne pourra pas être heureux dans son activité. Vous avez entendu, si vous étiez là, le don spirituel qui a été donné tout à l'heure, l'injonction de Dieu, plonge tes regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. En faisant cela, tu seras heureux dans ton activité. C'était le don de tout à l'heure. Une grâce particulière. Je me souviens, lorsque je me suis converti, il y avait au travail, j'avais témoigné, et un lundi, il y a un gars, j'étais jeune chrétien, il y avait 6 mois que j'étais chrétien. Et un chrétien me dit, mais si j'ai bien compris, alors tu ne peux pas mentir. Parce que je disais, non, moi je ne mens pas. Il me dit, mais tu ne peux pas mentir. Alors heureusement que j'ai eu le réflexe de dire, ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Et on a passé 1 heure à débattre dessus. Et la liberté, c'est cette grâce. J'ai un Dieu qui m'a donné une loi parfaite. C'est quoi la bénédiction? Parce qu'il faut bien la concrétiser. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il ne voit pas la chaleur arriver. Ça vous intéresse pas, ça? Avec la chaleur qui arrive, pas la chaleur de la couche d'ozone qui se réduit. Je parle de la chaleur des ténèbres, des ténèbres qui s'épaississent. Ça vous intéresse pas quand la chaleur vient de ne même pas vous en apercevoir? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Dans l'année de la chasseresse, il n'a pas de crainte. Ça vous intéresse, ça? Est-ce que ça vous intéresse? Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Noé, il savait, puisqu'il avait été averti, que ce déluge allait recouvrir la terre. C'était quelque chose de phénoménal. Et quand il est rentré, que sa femme est rentrée, parce que c'est important nos enfants, que ses enfants sont rentrés, ses fils, ses belles-filles sont rentrées, bien sûr que ça devait être terrible. Il savait que tous ces gens allaient mourir, mais lui, il était à l'abri. Est-ce qu'il a dormi le soir? Je ne sais pas, ça devait être terrible d'entendre tous ces gens crier. Mais est-ce que lui, il était à l'abri? Et quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes à l'abri. Heureux l'homme qui se confie en Dieu. Ce soir, vous êtes venu, vous avez bien fait. Vous avez certainement lu votre Bible aujourd'hui, vous devez le faire. Vous avez certainement prié, persévérez dans la prière. Mais la question que je nous pose à tous, est-ce que nous nous confions à Dieu? Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu pourvoira à tous vos besoins? Qu'est-ce que vous pensez quand le Seigneur vous rappelle, depuis peut-être 20 ans que vous êtes converti, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Dieu voit en ce moment comment vous écoutez cette parole. Peut-être que quelqu'un est en train de dire « Ah, ben moi ce soir, j'aurais aimé une grosse étude biblique. » Mais à quoi ça sert une belle étude où vous apprendriez que, tiens, demain c'est la fête de Yom Kippour, j'aurais pu, parce que ça m'est intéressé, aujourd'hui j'ai réfléchi à tout ce qui se passait le jour de Yom Kippour. C'est une belle fête en Israël qui représente beaucoup de choses pour nous, j'aurais pu le faire, je sais le faire. Mais franchement, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous n'avez pas besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin d'une parole pour chanter? Que quand l'année de la sécheresse vient, et nous y sommes dans la sécheresse, je n'ai aucune crainte. Tu prendras soin de moi, tu prendras soin de ma femme, hein, tu prendras soin de mes enfants, de mes petits-enfants si vous en avez. Heureux tous ceux qui se confient en Dieu. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et la confiance, ce n'est pas des actes de ce n'est pas des actes de service, tiens, je prêche pendant une heure, je suis venu de 7h à 9h à l'église, je sers Dieu, je m'applique à le faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est mon cas. Mais est-ce que parce que je sers Dieu et que je prêche correctement, je me confie en Dieu? Il n'y a que Dieu qui le sait. Et ce que je voudrais que nous comprenions bien, c'est que nous nous arrêtions sur tous ces textes où Dieu nous montre ce qu'il faut faire pour se confier en Dieu. Et c'est important peut-être de relire les évangiles, hein, parce qu'il y a une bénédiction quand même. C'est pas une question d'être bien, bien juste content. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Mon frère, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas comment tu te mets la barre. Il y a déjà, moi je me suis mis la barre à ce niveau, moi je me suis mis la barre haute, moi je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Pour moi, ça ne veut rien dire. À part soit en hauteur, mais après le reste. Moi, je vais vous dire une chose. Je crois qu'il est béni. L'homme qui dit où je suis, quelle que soit la marche de l'escalier sur laquelle je suis, même si j'en ai descendu 3 ou 4, j'aurais dû en monter 3 ou 4. Je les ai redescendus. Vous savez, cette semaine, je pensais, parce que tous les jours, j'ai des pasteurs au téléphone, je pensais à Pierre, l'apôtre Pierre, s'il avait été dans notre mouvement il y a quelques décennies, quand il a renié Jésus. Vous vous rendez compte? Le grand apôtre qui a écrit 2 épîtres après a renié Jésus. Qu'est-ce qu'il avait dit Jésus? Matthieu chapitre 10, verset 33. Je peux vous dire que Pierre était là. Tous les apôtres étaient là. Regardez bien. C'est Jésus, le maître du ciel et de la terre, qui parle. Quiconque, je ne sais pas l'intonation qu'il a utilisée, si c'était avec de la douceur ou de la sévérité, c'est très difficile à savoir. En tous les cas, c'est Jésus qui parle. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte? Cette parole, elle est terrible, oui ou non? Celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que Pierre a fait, lui qui se croyait supérieur aux autres? Ça, c'est un défaut. Ne vous comparez jamais à quelqu'un. Soyez vous-même. Pierre a renié Jésus. Il l'a fait 3 fois. Dieu, dans sa bonté infinie, l'a prévenu, parce qu'il aurait pu dire, tu me renieras. Non, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois, tac, prédication du coq. Parce que ça, c'était une prédication. Oui ou non? Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je suis certain que l'ennemi a dû travailler énormément le cœur de Pierre. Pour dire, tu vois, tu te rappelles ce qu'a dit le maître? Celui qui me reniera, je le renierai. Donc, mon pauvre Pierre, t'es grillé. Oui ou non? Mais Pierre a pleuré. Il connaissait la grâce de Dieu, comme David. Parce que la bénédiction, c'est pas que un réflexe, je me confie en Dieu. Bon, j'ai compris. La prière, lire, servir, aller à l'église sont une chose. La confiance, ça en est une autre, énorme. C'est bon, je me confie. Non. La bénédiction, elle est extrêmement liée au fait de connaître Dieu. Et dans la Bible, vous voyez que les gens qui sont bénis, ce sont les gens qui, parce qu'ils connaissent Dieu, ils font ce que Dieu demande. Mais ils le font avec le cœur. Paul dit aux Romains, vous avez obéi de cœur. C'est une obéissance joyeuse. Oui, je ne peux pas ne pas te faire confiance. Vous ne pouvez pas. Si vous le connaissez, vous ne pouvez pas ne pas lui faire confiance. Il y a un psaume qui le dit. On va le lire. C'est un psaume que j'ai lu juste après mon AVC. Je me rappelle, je relisais les psaumes parce que j'avais du mal à lire. Je me suis dit, tu vas lire les psaumes, tu vas lire ce qui est plus facile. Et je me suis arrêté, j'étais à la maison, c'était un dimanche matin, je ne pouvais pas venir au culte. Je lisais dans ma chambre, psaume 9, verset 11. Et j'ai compris tout ce que je suis en train de vous dire. Psaume 9, verset 11. Et regardez bien ce qui est écrit. C'est imparable, imparable. Ceux qui connaissent ton nom, qu'est-ce qu'ils font? Ils se confient en toi. Si vous le connaissez, vous ne pourrez pas faire autrement que de vous confier en lui. Il est digne de confiance. Vous comprenez? Alors après, il faut revenir peut-être au sermon sur la montagne et dire, ben moi, je vais être béni. Oui, je vais être béni. Je vais être béni. Alors, là, on pourrait passer 3-4 heures à prendre des textes sur le comportement des chrétiens. Qu'est-ce que je dois faire pour être béni? J'ai des gens qui me font du mal, qui me critiquent, qui me salissent. On lit un verset ou deux dans le sermon sur la montagne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des ennemis? Est-ce que c'est normal d'avoir des ennemis? Mais bien sûr que c'est normal. Je ne suis pas venu mettre la paix entre le père et la fille, mais entre la mère, le maire, la belle-fille. Est-ce que c'est écrit? Je suis venu mettre l'épée. Oui, pourquoi? Parce que si la mère, le maire est dans les ténèbres et que la belle-fille est dans la lumière, qu'est-ce que ça crée? Comment? Ça crée des tensions. Donc c'est normal. Jésus n'a pas dit, ce n'est pas normal que vous ayez des ennemis. Matthieu 5, verset 43, qu'est-ce que Jésus dit par rapport aux ennemis? Vous avez appris, il faut l'apprendre, moi je vous le dis, il faut l'apprendre. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ben ça c'était la loi du talion. Mais moi, c'est Jésus qui parle, je vous dis, aimez vos ennemis. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des ennemis. Des gens, si vous êtes dans la lumière et que votre frère est dans les ténèbres, est-ce qu'il va vous porter en affection? Non. Et il y a des chrétiens qui se culpabilisent parce que il y a, par rapport à ces tensions, à ce combat spirituel. Écoutez, c'est pas moi qui dis, c'est juste après dans Matthieu 10, ce qu'on a lu tout à l'heure. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Il y a quelqu'un qui veut être béni ce soir? Sérieusement. Parce que Dieu voit comment vous répondez à cette question. C'est une question sérieuse, archi simple. Mais si nous voulons chanter, en partant, je vis dans la grâce de Dieu, plus de fardeau. Oui, dans ma famille, il y a des gens qui sont pénibles, qui sont contre moi parce que je suis chrétien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aimer, les aimer, les bénir. Comment je vais faire? Eh bien, priez pour eux. Quand vous priez pour quelqu'un, vous le bénissez. Il y a des chrétiens, moi j'ai entendu des chrétiens, mais celui-là, je ne peux pas le saquer, je ne peux pas le blairer, je ne veux pas le rencontrer et tout. Mais bien sûr, il y a peut-être des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer, mais on peut prier pour eux, ne pas les haïr. Ce matin, avec ma femme, on partageait ce texte de Anne quand elle avait le cœur plein d'amertume. Plein d'amertume, elle priait. Est-ce que c'est écrit l'amertume dans l'âme, elle priait? Et pourtant, quand le pasteur, avec le don de discernement pas possible, s'est approché d'elle et qu'il lui a dit, avec beaucoup de tendresse, « Va cuver ton vin. » Vous vous rappelez ce discernement là du prophète? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, « Non, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre. Je répandais mon âme devant l'Éternel. » elle avait de l'amertume parce que elle avait un combat spirituel avec la deuxième femme à son mari, qui l'irritait. Elle avait de l'amertume dans l'âme, cette amertume elle l'a déposée au pied du Seigneur. Mais quand le pasteur lui a fait un reproche, pourquoi Dieu a permis ça, j'en sais rien. Mais Dieu peut permettre parfois qu'on soit maladroit. Ça peut arriver ? Oui. Et elle a dit non, mon Seigneur. Elle a béni. Le résultat, elle a enfanté un homme qui a changé l'histoire d'Israël. Bénissez. Et je termine avec cette pensée, mes frères et sœurs, parce que c'est une loi, c'est la semence. C'est de la semence. On va terminer avec ce texte. Il y en a d'autres, vous pouvez les chercher. Vous pouvez les chercher avec une concordance. Moi, j'avais préparé tout ça. Le temps nous a manqué. Mais on va terminer avec ce texte que j'aimerais que nous apprenions par cœur. Vous avez vu ? Vous avez appris ? N'as-tu pas appris ? Est-ce que vous avez appris ce verset ? 1 Pierre 3, verset 9. Est-ce que vous l'avez appris ? Est-ce qu'il est dans votre, pas dans votre tête ? Parce que moi, je peux vous dire qu'il est dans ma tête. Mais je sais aussi qu'il est dans mon cœur, celui-là. Est-ce que vous pouvez le lire avec moi, sachant qu'il vient du ciel ? Toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ces versets, ils ne sortent pas de la bouche de Pierre, ils ne sortent pas des académies théologiques françaises, ils sortent du trône, parce que Dieu veut nous bénir. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ce verset, je voudrais que vous ne reteniez que ce verset ce soir, et que nous commencions, si ce n'est pas le cas, à le vivre. Regardez quand même la profondeur de ce verset. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, ça fait partie de notre vocation. Quand il est écrit appelé, ça veut dire la vocation. Voilà, je suis appelé. La vocation, c'est tout le monde qui est appelé à ça. Afin d'hériter la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut hériter la bénédiction ? Qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction pour vous ? Qu'est-ce que vous écririez pour vous ce soir si vous demandiez à Dieu, parce que c'est écrit... C'est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Si pour vous la bénédiction, si aimez-moi la bénédiction, Seigneur, je vais te l'écrire. Pour moi, la bénédiction, c'est que tous mes enfants soient sauvés. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tous mes enfants soient sauvés ? Pour moi, la bénédiction, c'est que peut-être je ne puisse plus travailler pour aider l'Église. Je ne sais pas, c'est des choses qui vous sont personnelles par rapport à des étapes. Mais vous croyez que si vous bénissez, vous hériterez la bénédiction. Bien sûr, si vous faites le jeu du diable en commençant à dire, et vous avez vu encore le ministre de l'Intérieur, ce qu'il a pondu, ils vont faire voter cette loi, ces imbéciles, ces idiots qui nous dirigent. Les chrétiens, ils parlent pas comme ça. Ces ignares qui nous commandent. Mais quand je pense que j'ai voté pour lui, c'est pas pour moi, mais que j'ai voté pour lui. Cet imbécile. Moi, j'ai lu dans la Bible qu'il faut prier pour ceux qui nous gouvernent. Et voyez, si vous faites partie de cette catégorie de gens qui vous êtes fait piéger par les journalistes qui sont capables de vous édifier, moi, je vous dis, ne les écoutez plus. Priez pour ceux qui vous gouvernent. Parce que c'est écrit qu'avant toute chose, il faut le faire. Afin que vous soyez heureux sur la terre. C'est écrit. Afin que vous meniez une vie paisible. C'est écrit. Eh bien, je vais bénir mon pays. Je vais bénir ceux qui nous gouvernent. Je suis contre leur politique. Mais ça, on s'en fiche. Que vous soyez pour, que vous soyez contre, moi, ça m'est égal. Vous me diriez, moi, je suis pour telle loi. Mais c'est bien. Contre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que Dieu me demande ? Je veux bénir mon pays. Bénissez. Je vais bénir ma famille. Je vais bénir les gens qui me maudissent. Bénissez. C'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est Dieu qui bénit, vous savez. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Alors, confions-nous en Dieu, mes frères et sœurs. Confions-nous en Dieu. Tout ce qu'il dit est intelligent. Tout. Son intelligence n'a pas de limite. Les astrophysiciens pensaient qu'il y avait 200 milliards de galaxies. Ils viennent de se rendre compte qu'il y en a juste 1,7 milliard. Grâce à un télescope. Dieu est grand. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. S'il s'occupe des galaxies, je pense qu'il peut s'occuper de ses enfants. Est-ce que vous voulez qu'on le remercie, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans son cœur, dit « Seigneur, je veux te remercier de m'avoir rappelé ces choses. Oui, je veux vivre dans leur repos. Oui, je veux déposer tous mes fardeaux. Tu me le demandes, mais je le ferai. Tous. Pas 99, tous mes fardeaux. Tous. Honorons-le, mes frères et sœurs. Si Jésus dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous », eh bien, si vous lui faites confiance, vous le ferez. Tous les fardeaux. Tous, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut terminer la réunion dans son cœur en disant « Seigneur, oui, je vais vivre, tous ceux qui connaissent ton nom se confient en Dieu. » Et demandons-lui de l'aide. Demandons-lui de l'aide. Je ne sais pas où vous en êtes, mais confiez-vous en lui. Une confiance totale et aveugle. Notre Père, combien nous aimons t'appeler notre Père. Notre Père éternel. Non seulement ici-bas, mais je pense, Seigneur, que nous t'appellerons Père éternel lorsque nous te verrons aussi. Combien nous serons heureux de t'appeler en te voyant, Père éternel. Nous avons levé la main contre toi et tu nous autorises à t'appeler Père. Merci pour tous ces versets qui nous entraînent et nous entraînent dans le repos de la foi. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où le laxisme ou le légalisme nous a embrouillés. Nous voulons vivre dans le repos. La chaleur vient, les ténèbres s'épaississent. Le jour vient où personne ne pourra travailler, mais comme Noé, nous sommes à l'abri. Grâce au calvaire, nous sommes à la croix, Seigneur, et nous y restons. Et nous choisissons, oui, de chanter vraiment que nous avons déposé tous nos fardeaux à tes pieds. Seigneur, fais de nous de bons témoins. Dans ces temps difficiles, tu vois les gens que nous côtoierons demain, que notre seule présence, même si nous n'arrivons pas à parler aux gens que nous côtoyons, que nous puissions leur procurer la paix. Cette grande bénédiction qui vient encore de la croix. Seigneur, bénis cet auditoire, bénis cette église. Garde-nous, Seigneur, garde-nous de nous appuyer sur la prière, sur la lecture ou sur le service. Nous voulons tout simplement, pendant la lecture, le service, la prière, en tout et pour tout, nous nous confierons en toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous.